Info rapide. On est de plus en plus nombreux et nombreuses en tant que freelance et entrepreneurs solo à ne plus en pouvoir des discours entrepreneuriaux qui prônent la croissance, les 6 chiffres annuels, le fait de toujours en faire plus et plus et plus. On cherche des alternatives, d'autres manières d'entrevoir l'aventure entrepreneuriale et le fait de développer nos business, mais malheureusement, la plupart des offres d'accompagnement, de coaching ou de formation sont encore uniquement dans un prisme croissance business. En ce moment, on est en train de faire, comme chaque année, notre période de recrutement pour les 30 personnes qui rejoindront la promo de notre programme Surf. Le programme Surf, c'est un programme d'accompagnement sur 2 ans, donc pensé pour le temps long, pour t'aider à passer un cap dans ton aventure entrepreneuriale et ton business freelance, mais pas seulement sur le business. Notre pédagogie, elle repose sur 3 piliers. Le business, bien sûr, nous sommes des entrepreneurs et on veut développer nos entreprises. Le développement personnel, ce qu'on préfère appeler nous l'épanouissement individuel, parce que dev perso, c'est un terme qui a une connotation de moins en moins sexy. Donc tout le travail sur toi, la personne, être épanoui dans ton travail. Et le 3e pilier, c'est ce qu'on appelle la pensée systémique. C'est entrevoir le business en prenant en compte des sujets sociétaux hyper importants, comme l'écologie, le féminisme, la justice sociale, etc., etc. Cette liste est longue. Et donc, ce qu'on accompagne les gens à faire dans le programme Surf, c'est avancer dans leur processus et leurs projets entrepreneuriaux sans sacrifier leur épanouissement individuel et en prenant en compte les enjeux les plus importants de notre civilisation humaine. Si tu penses que ça peut te correspondre et que tu veux faire partie d'un groupe de gens qui te ressemblent pour un accompagnement sur le long terme avec 2 coachs à tes côtés, peut-être que le programme Surf est fait pour toi. Pour le savoir, je t'invite à te rendre sur surfenfreelance.com. Je répète, surfenfreelance.com, et tu peux prendre un appel avec nous et notre équipe pour en savoir un peu plus. Les portes sont ouvertes en ce moment. J'espère avoir l'honneur de te compter parmi les membres du groupe de cette année. Et sur ce, bonne écoute de l'épisode. Salut à toi, et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge, et je crée des expériences pédagogiques pour aider les freelances et les entrepreneurs indépendants comme toi à prospérer dans leur activité et dans leur vie. Si tu suis un peu l'univers entrepreneurial et, entre guillemets, monde du travail, sur Internet, dans les médias, sur les blogs, tu as sûrement déjà entendu parler du terme « bullshit jobs ». Ce terme, qui a été imaginé par l'anthropologue américain David Graeber, désigne les métiers et les tâches dénués de sens que peuvent avoir certaines personnes dans le monde du travail. Et il existe d'ailleurs aujourd'hui tout un mouvement de personnes qu'on appelle les « makers » qui fuient ces métiers pour revenir à l'artisanat, à la création, ou en tout cas des activités qu'ils perçoivent comme étant davantage au service de la société et du monde qu'ils veulent voir sous leurs pieds. Et bon, dans cet épisode, on va pas parler directement des bullshit jobs, mais on va parler du sujet sous-jacent qui est important dans la vie de chacun d'entre nous, le sens. Et pour en discuter, j'ai le grand plaisir d'accueillir Lola Benzazon, qui est la grande gagnante du concours de la saison 4 du podcast, pour participer à cet épisode. On discute ensemble de son parcours et de ses réflexions sur la place de son métier de graphiste dans la société et le sens qu'elle lui a retrouvé au fil de ses péripéties entrepreneuriales. Un bel échange sur les apprentissages de sa vie d'indépendante, et je suis sûr que son expérience te sera d'un grand soutien. On se retrouve en fin d'épisode pour le récap. Belle écoute. Un grand bienvenue sur Young, Wild and Freelance, Lola.
Merci de m'accueillir.
Avec grand plaisir, je suis trop content que tu sois là. La petite histoire pour les gens qui l'écoutent, c'est que Lola a gagné le premier concours du podcast. Et du coup, la grande récompense, c'était un épisode ensemble. Et je suis très, très heureux de t'accueillir. Il y a des choses super intéressantes dont on va parler. Mais du coup, encore une fois, bravo.
Oui, merci pour la belle opportunité aussi que c'est.
Mais écoute, je suis ravi que ce podcast représente aujourd'hui une opportunité. Ce n'était pas le cas au tout début, mais très content que ça te rende heureuse aussi. Je te propose que pour engager notre conversation, on commence par la toute première question que tu connais, qui est, Lola, comment et surtout pourquoi est-ce que tu es devenue indépendante ?
Oui, vaste question du coup, comme on en parlait juste avant. Du coup, c'est vraiment le cumul d'expériences mis bout à bout où à un moment, je me suis dit, il n'y a plus le choix en fait que d'arrêter d'être salariée. Et donc, en fait, j'ai fait des études de graphisme pendant 5 ans, donc 4 années en alternance. Et donc 2 années dans une entreprise et 2 autres années dans une seconde entreprise. Et en fait, ma première expérience, donc vraiment dans le salariat, ça s'est plus ou moins bien passé, on va dire, humainement. Et donc déjà, en fait, à 19 ans, je me disais, mais comment je vais faire pour toute ma vie être salariée et à faire un travail où je m'épanouis pas forcément à 100%. Et du coup, ça avait déjà mis une première petite graine, on va dire, dans mon cerveau, mais je me sentais pas du tout, enfin, j'étais encore en études, je me posais pas vraiment la question d'être à mon compte. Et pour le coup, la deuxième expérience s'est super bien passée, donc j'ai vraiment eu les deux extrêmes, on va dire. Et après mes études, j'ai décidé de partir en voyage en Australie pour faire un working holiday visa. Et là, pareil, il y a eu des petites pierres qui se sont rajoutées. Du coup, on a commencé à travailler. Et la première expérience que j'ai faite là-bas, c'était femme de ménage. Donc, à des milliers de kilomètres de ce que j'ai pu faire avant. Et là, pour le coup, je me disais, oh là là, mais enfin, j'ai trop de chance d'avoir fait les études que j'ai faites, de faire un métier qui, en vrai, me plaît énormément. Et voilà, il y a eu cette première aussi petite chose qui s'est mise dans mon esprit. Et donc, bon, après, voilà, le voyage a continué. On a fait d'autres petits boulots. Et surtout, après, un voyage en van pendant plusieurs mois. Et là, grande liberté. Enfin, c'était vraiment incroyable de découvrir tout un nouveau monde. J'avais jamais voyagé de ma vie. Donc, ça fait vraiment un gros changement. Et donc ça, en gros, ouais, je suis partie 1 an, donc entre l'Australie et un petit peu l'Asie, donc à découvrir d'autres cultures, etc., à vraiment m'ouvrir à plein d'autres choses. Et en rentrant, c'était un peu le « oh là là, je rentre, je retourne à la vie réelle, etc. » Et déjà, se dire qu'on retourne à la vie réelle, je trouve que c'est pas normal. Enfin, en fait, on devrait toujours être dans… c'est génial ce que je fais et des expériences qui se suivent, quoi. Et donc, j'ai recommencé à chercher un travail. J'ai trouvé un CDI assez vite, donc plutôt cool sur le papier. Et malgré tout, quand j'ai signé le contrat, je me disais, ça me bloquait un peu. Il y avait ce truc de CDI où je me sentais enfermée dans une case qui n'était pas forcément celle pour laquelle j'étais faite, mais sans savoir celle pour laquelle j'étais faite. Donc, un peu à me dire, j'y vais parce que là, de toute façon, je sais pas quoi faire d'autre. Let's go pour le CDI. Je suis rentrée en tant que graphiste avec une équipe, etc. Donc, apprendre encore des choses dans toutes les expériences. Je pense qu'il y a des points positifs à prendre de toute façon. Et j'ai tenu 1 an et demi. Et en fait, le déclic qui a fait que je me dise, c'est vraiment plus pour moi. J'étais en voyage, encore une fois, juste en vacances avec une copine et à quelques jours de rentrée, j'avais une boule au ventre de me dire c'est reparti, retourner, métro, boulot, dodo, etc. Et du coup, je me suis dit ok, je prends rendez-vous dès que je rentre avec ma responsable pour mettre fin à ce contrat.
Ah ouais.
Ouais, mais parce que je sais.
Passage à l'action direct.
Ouais, parce que si tu le fais pas d'un coup, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Si je prenais pas la décision directement, en fait, je me remettais dans le train-train quotidien. Mmh. Et en fait, très vite, tu te dis, en fait, ça va, enfin, je suis pas à plaindre, j'ai un travail, je me sens bien dans ma vie en général. Donc, je savais que si j'attendais, c'était un peu, foutu et je repartais comme ça pour pas mal de temps. Donc je me suis dit c'est le moment. Et passage à l'action. J'ai eu la chance J'ai eu de la chance de plutôt bien m'entendre avec ma responsable et du coup elle m'a proposé une rupture conventionnelle. Donc du coup entre le moment où j'ai dit genre je veux partir et le moment où je suis partie, il s'est passé quand même plusieurs mois, je sais pas, genre 4 ou 5 mois je crois, un truc comme ça. Donc les derniers mois semblent longs aussi, où tu te dis oh là là, en même temps bah c'est un engagement à rester, voilà. Donc j'avais déjà un projet en tête un petit peu qui mûrissait. De créer une ligne de vêtements, mais c'était encore super flou, donc j'avais envie de travailler avec mes graphismes, mais ouais, je savais pas trop comment faire les choses, etc. Et puis je me sentais pas non plus les épaules pour vraiment bah, créer ma boîte, quoi. Et du coup, je me suis dit, bah, de toute façon, je savais qu'en rentrant d'Australie, je voulais repartir voyager à un moment ou à un autre. Donc bah là, c'était un peu le moment, en quittant ce travail, de m'octroyer encore quelques mois de vadrouille à droite à gauche. Et du coup, je suis partie cette fois toute seule. Donc gros challenge. Je suis partie pendant 4 mois. Là, j'ai fait un petit peu l'Asie et la Nouvelle-Zélande. Bah c'était pas du tout la même approche parce que le premier voyage, j'étais avec une amie. Là, je partais toute seule avec mon sac à dos. Je suis arrivée là-bas, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Je suis là, je suis d'hôtel, aucun repère. Enfin, c'était vraiment pas facile les premiers jours, quand même, un gros temps d'adaptation à avoir. Et puis, en fait, petit à petit, j'ai pris goût au truc de vraiment bah, vivre un peu selon mon rythme, etc. Et en fait, ce que je retrouve maintenant aujourd'hui, et c'est pour ça, j'adore maintenant être à mon compte, justement pour toutes ces petites choses que le voyage m'a montré, bah, c'est possible d'avoir ça, ça, ça et ça dans ta vie. Et bah prends-les, amène-les où tu habites maintenant et garde ça avec toi, quoi. Et du coup, ce voyage, il m'a vraiment permis de me confronter à moi-même. Déjà, ça c'est le premier point. D'apprendre à être bien aussi avec moi-même, parce que bah tu sais, ici t'es dans le flow un peu de la vie, t'avances à droite à gauche mais sans vraiment te poser quoi. Et donc là bah j'étais vraiment à mon rythme, à faire vraiment ce que je veux, etc. Et aussi bah devoir régler tous les problèmes, toutes les situations dans lesquelles t'es, bah t'es toute seule donc tu te débrouilles. Et ça bah aussi c'est ça m'a aidée, je pense, à être aujourd'hui plus confiante dans ma vie d'indépendante, parce que bah je sais que je peux le faire, en fait. Donc c'est pas les mêmes situations, mais je sais que j'en suis capable, en fait. Et donc voilà, donc du coup je suis partie 4 mois et j'ai décidé de rentrer pour lancer donc mon projet, qui avait un peu mûri quand même pendant ce voyage. J'étais pas partie juste pour vadrouiller. Je savais que j'avais besoin aussi de me poser pas mal de questions. Et du coup, bah, je suis rentrée. J'ai mis un peu de temps quand même pour lancer ma première entreprise, du coup. En 2018, en juin 2018, du coup, j'ai vraiment lancé officiellement ma ligne de vêtements en coton bio, parce que ça me tenait à cœur que ce soit des produits éthiques et de la meilleure qualité possible. Du coup, sur laquelle on retrouve des graphismes sur lesquels, bah, alors, ça a un peu évolué avec le temps, mais au début, c'était vraiment des inspirations bah, de voyage, de la nature, etc. Et voilà, donc ça, c'était en 2018, et depuis, j'ai bien avancé. Maintenant, ça fait quelques mois, on va dire 6 mois à peu près, que je me suis lancée en tant que graphiste freelance aussi, en parallèle du coup de la première. De Canaille Wear, donc la première marque que j'ai lancée, parce que pour le coup, donc bah Canaille Wear, je travaillais vraiment toute seule, et là j'ai ressenti un besoin vraiment profond de mettre mes compétences en fait au service d'autres personnes qui œuvrent à aider le monde, on va dire, à avoir un meilleur impact, et du coup bah qui portent attention en tout cas à l'être. Enfin, tout ce qui est vivant, respect du vivant, que ce soit l'humain, l'environnement, les animaux, etc. Donc voilà, en gros, comment j'en suis arrivée avec ces deux activités.
Ouais, merci pour tout ce récit. Il y a plein de choses dans lesquelles j'ai envie de piocher et revenir. Notamment, ce qui est super intéressant, c'est cette double vitesse quand même dont tu parles. Tu as lancé une première marque de vêtements, on peut dire ça. Puis ensuite, tu t'as mis la brique freelance à côté. Souvent, les gens font l'inverse, mais ça va être intéressant.
Exactement.
Je suis curieux de savoir ton cheminement là-dessus. Mais il y a un premier truc que je voulais attraper comme distinction dans ce que tu racontais au début sur l'impact du changement d'environnement dans les décisions que tu as prises. Tu parlais de ton premier voyage en Australie, après tu as parlé de quand tu es parti en vacances et que tu as eu le déclic de te dire, en fait, ma routine et mon quotidien là, en tant que salarié, ça me va plus du tout. Et là, tu parlais du passage à l'action radicale là derrière. Après, tu parlais de t'es reparti en voyage pour mûrir ton projet. Et je voulais juste appuyer sur ce truc de à quel point souvent juste un changement d'environnement ou un changement de perspective ou de ouais, où on se trouve ou de comment on vit, ça peut complètement nous faire changer de regard sur ce qu'on est en train de traverser et ce qui se passe pour nous. Je pense
Ah,
que
carrément.
beaucoup de personnes l'ont vécu en 2020. T'es dans ta routine, t'es dans ton quotidien et t'as pas de recul sur qu'est-ce que je pense de ce quotidien parce que t'es tellement à l'intérieur que tu le vois pas de l'extérieur avec un œil extérieur, quoi. Et du coup, je trouve que c'est assez marquant dans ce que tu m'as raconté, que t'as eu des étapes comme ça où tu sors du truc, tu le regardes de l'extérieur, ça t'aide à voir et tu reviens ensuite pour agir.
Ouais, bah c'est vrai que ça permet d'avoir un œil nouveau sur la situation, quoi. Et de prendre du recul et aussi de dire, OK, là, à l'instant T, je suis super bien, vachement mieux que dans le quotidien habituel. Et du coup, c'est quoi la différence, en fait? Et du coup, bah, comment après, tu essaies de faire en sorte que le quotidien qui te va pas, bah, il devienne un quotidien qui te va, parce que c'est quand même le but de la vie, je pense, d'être épanoui au maximum.
Ouais, et puis c'est t'as retouché quelques mots là-dessus en disant qu'aujourd'hui ta pratique c'est essayer de voir comment je peux ramener toutes ces choses qui font que je me sens bien dans ma manière de piloter mon activité, quoi. Tu peux nous partager quelques-uns des exemples d'ailleurs de ce que ça représente pour toi, c'est quoi les choses qui te rendent bien et comment tu les intègres dans ton activité?
Ouais, bah déjà de réussir à gérer mon temps, mes envies, etc. Enfin, j'essaie vraiment de m'écouter. J'essaie, tu vois, de mettre des blocs de ah bah là, faut que je fasse ça, ça, ça. Mais par contre, si je sens que à un instant T, c'est pas du tout le besoin que j'ai et qu'il vaut mieux que j'aille, je sais pas, me balader 1 heure pour remettre à neuf mon cerveau, mes idées, etc. Je m'autorise ça parce que, enfin, avec du recul, maintenant, je sais que c'est ces moments un peu bah, où je me retrouve toute seule et dans la nature. Ça, c'est vraiment un truc qui me fait changer enfin, qui me nourrit en fait plutôt. Et du coup, ouais, j'essaie d'intégrer tout ça bah, pour réussir à passer les meilleures journées possibles, avoir les meilleures idées en fait sur le temps, quoi.
Et du coup, je suis curieux sur ce truc. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais, genre, je ressens le besoin d'aller m'ancrer dans un autre paysage et voir les choses différemment. Donc, je vais par exemple marcher, comme tu dis, en nature. Ou est-ce que c'est une forme de sorte de rituel que tu as qui te permet d'ancrer ça régulièrement dans ta journée pour voir les projets sur lesquels tu travailles revenir à un autre état, etc.
Non, c'est pas un rituel, c'est vraiment. Enfin, j'ai des semaines où je sors quasiment pas et je suis à fond derrière mon ordi à être productive. Et par contre, bah, il y a des semaines où pour le coup, je sens que j'ai vraiment besoin d'aller chercher des idées ailleurs. Et le genre des fois, t'es devant ton ordi, t'as rien qui vient, t'essaies d'écrire des choses, t'es en mode galère. Enfin, ça sert à rien en fait, tu perds du temps. Et du coup, bah, j'essaie d'apprendre à ne pas culpabiliser, parce que c'est encore difficile et il y a des fois où je
Grave.
culpabilise quand même, mais d'apprendre à pas culpabiliser et de me dire, bah, si là, ça peut te permettre d'après avoir 10 idées au lieu d'une, voire zéro même, bah, autant prendre ce temps qui est super bénéfique.
C'est clair. Et je pense que ce qui est hyper intéressant dans ton exemple et à retenir, je pense, pour nous tous, c'est comment est-ce qu'on peut trouver des pratiques ou des actions, des choses qu'on sait qui vont nous soutenir dans ces moments où on se sent bloqué. Tu vois, toi, tu donnes l'exemple d'aller marcher en forêt. Peut-être que pour d'autres, c'est aller courir 15 minutes. Juste un truc. Moi, je sens que ça marche bien aussi quand je le fais, que c'est un truc qui me ramène dans mon corps et qui me sort de ma tête. Ouais, déconstruire ce truc de ah, je suis bloqué, t'es trop dans tes idées, genre comme un cul-de-sac, quoi. Et d'avoir des pratiques où on sait qu'on peut aller se réfugier là-dedans. Enfin, se réfugier, c'est pas vraiment le bon terme, mais où on sait qu'on peut aller passer par là pour revenir dans un meilleur état et un meilleur espace pour venir travailler sur ce dont on a besoin de travailler, quoi.
Carrément.
L'autre truc sur lequel je voulais revenir, du coup, dans ton petit récit, c'est effectivement cet ordre dans lequel t'as engagé les choses. Ça commence par, j'ai envie de créer une marque de vêtements qui s'appelle du coup Can I Wear. Pas en anglais Can I, mais Can I en français. Et je suis
Avec le
curieux
petit jeu
de,
de mots.
avec le petit jeu de mots, ouais. Le petit jeu, enfin, d'où ça vient du coup ce, pourquoi cette impulsion-là en premier, plutôt que je vais faire le même métier qu'avant, mais juste à mon compte?
Oui, bah c'est vrai que normalement les gens font plutôt à l'inverse. Enfin, en tout cas, les graphistes que je connais, ils se lancent d'abord en tant que graphiste freelance et après ils lancent des produits un peu dérivés avec leurs dessins, etc. Bah en fait, je pense que j'avais besoin vraiment de couper avec le monde du salariat et des clients, etc. Et en fait, je trouvais pas de sens dans mon métier. Vraiment, je me disais, mais c'est bien, hein, le graphisme, ça peut être utile à certains, sur certains aspects, mais là, la manière dont je le pratique, moi, je ne vois pas comment je peux porter ma pierre à l'édifice pour, bah, pour faire avancer les choses, en tout cas. Et quand j'étais en études, j'ai toujours, à chaque fois qu'il y avait des projets où on avait un peu le choix de ce qu'on pouvait faire avec, j'étais toujours dans des projets liés à l'environnement, essayer de mettre en avant des associations, etc. Et à chaque fois, les créations que je faisais, j'essayais de les mettre sur des sacs, des t-shirts, etc. Et donc, en fait, bah, je pense que ça, je l'avais un peu mis de côté, mais bah, c'était toujours dans un coin de ma tête, au fond, quoi. Et puis, bah, petit à petit, je voyais sur Internet des gens comme ça qui se lançaient. Et je me suis dit, bah ouais, en fait, enfin, c'est vrai que j'adorais faire ça pendant mes études et pourquoi pas le faire bah, vraiment et pour moi, quoi. Et du coup, bah, je me suis dit, pareil, let's go, on tente le truc. Et c'est ça aussi qui m'a aidée, je pense, à prendre confiance aussi dans le fait que je suis capable de créer bah, mon entreprise et du coup d'avoir un second. Enfin, ouais, un second aspect avec le graphisme en freelance. Et c'est toute cette partie à travailler bah, pour moi principalement, parce qu'après, c'est avec des clients en particulier, mais ça n'a quand même rien à voir avec des clients professionnels. Et t'as pas du tout les mêmes rapports. En fait, là, je travaillais vraiment, je faisais ce qui me plaisait, quoi. Et après, bah, fallait espérer que ça plaise à des clients pour qu'ils achètent les produits, mais j'étais pas à vendre des prestations à des prix élevés, etc. C'était pas du tout la même chose que mon métier de base. Et ça m'a permis aussi de faire tout un travail sur moi, d'apprendre vraiment plein plein de choses. Et c'est toutes ces petites briques qui m'ont permis après de me dire, OK, je suis capable d'apporter de la valeur à des clients bah, de taille du coup plus conséquente et des professionnels. Et du coup, ouais, de ressentir vraiment le besoin en fait d'aider différemment. Et parce que j'étais super contente d'avoir cette marque de vêtements en coton bio et tout, je me disais, bon, bah, c'est déjà ça, c'est chouette. Mais j'avais l'impression après là d'arriver à un stade où j'étais bloquée, de ne pas savoir vraiment comment faire plus, comment aider plus, etc. Et du coup, je me suis enfin vraiment prise de conscience un jour en me disant, mais en fait, j'ai le choix des projets. Que sur lesquels je peux travailler, des clients que je peux accompagner. Et du coup, ça a un peu redéfini bah, toute ma vision de mon métier. Et je me suis dit, mais en fait, enfin, le graphisme, pour des projets comme ça a un sens de dingue. Et en fait, je me suis dit, c'est ça qu'il faut, enfin, c'est vers ça qu'il faut que j'aille pour maintenant passer à l'étape supérieure et m'épanouir d'une autre manière. Et libérer encore un peu plus ce blocage, quoi.
Ouais, c'est tu me fais la parfaite transition parce que je voulais revenir sur il y a un article sur ton blog où tu racontes un peu justement ton cheminement sur ton métier et le sens du graphisme dans le monde dans lequel on habite avec les enjeux écologiques que je sais te sont chers, Ouais, du coup, en te lisant, j'avais l'impression qu'à un moment donné, mais tu l'as un peu décrit là, tu avais presque perdu le pourquoi est-ce que le graphisme ça existe et pourquoi est-ce que, genre, à quoi ça sert, quoi. Et que du coup,
Oui.
tu as réussi à lui redonner un peu un sens, comme tu disais aussi dans cet article, tu disais le graphisme est un outil neutre, on le met au service de ce que l'on souhaite. Je veux bien que tu rentres un peu plus dans cette réflexion-là, ton cheminement sur ça.
Ouais, bah c'est une réflexion assez nouvelle hein, parce que c'était vraiment courant 2020. En fait, toutes ces réflexions-là et de quand est-ce que j'ai décidé vraiment de me relancer, enfin de me lancer tout court en graphiste freelance, c'était début 2020, enfin fin 2019, début 2020. Et je m'étais jamais vraiment posé la question de comment je peux faire pour recommencer ce métier en m'épanouissant, parce que du coup j'avais un peu mis ça de côté et j'étais contente de faire autre chose. Et quand même, petit à petit, je me disais, mais c'est dommage de ne pas me servir de mes compétences un peu plus pour valoriser d'autres projets, parce que du coup, moi, ça m'a quand même vraiment aidé d'être graphiste et de pouvoir créer mon logo, mes flyers, etc. pour ma ligne de vêtements. Et puis, bah, en lisant en fait d'autres articles comme ça sur d'autres métiers un peu similaires de la communication, je me suis rendu compte qu'en effet, enfin, l'image, elle est omniprésente dans toute la société, ça, on peut rien changer là-dessus. Et le graphisme, bah, il a quand même le pouvoir d'attirer et de séduire, en fait, tout simplement ta clientèle, que ce soit des professionnels comme des particuliers, du coup, mais en tout cas d'amener ton message à avoir du sens et de l'impact en fait tout simplement. Et du coup, je me suis dit bah c'est vrai que je voyais ça un petit peu comme le vilain petit canard. Le graphisme souvent on dit ça n'a pas de valeur, on vend que des produits un peu inutiles, c'est les grandes marques qui s'en servent, etc. Enfin des fois on a cette image-là du graphisme et je m'étais un peu mis ça dans ma tête très loin. Et petit à petit, je me suis dit bah non par exemple, les associations qui communiquent, etc., bah, faut bien qu'elles le fassent et il faut bien des gens derrière pour mettre tout ça en scène pour que ça parle aux autres et que petit à petit rallie des gens à leur cause, quoi. Et voilà, du coup, tout simplement avec des petites réflexions comme ça.
Ben, je trouve ça hyper intéressant, notamment le truc sur lequel tu as atterri par la suite. Parce que tu vois, cette croyance dont tu parles sur le graphisme, moi je l'ai moins rencontré là, mais plus sur le marketing par exemple. Et je le vois beaucoup chez les indépendants, j'en ai parlé plein de fois sur ce podcast de. Le marketing, c'est mauvais, c'est utilisé pour la manipulation, pour de vendre des trucs dont on n'a pas besoin, etc., etc. Alors que, encore une fois, comme tu dis avec le graphisme, c'est un spectre de compétences qui est finalement neutre. C'est genre, là, c'est une compréhension du fonctionnement d'une entreprise et de la vente et des transactions et d'une économie. Et comme tu le dis, on le met un peu au service de ce que l'on souhaite. Tu peux utiliser ça, soit effectivement pour vendre, de l'huile de palme qui bute les orang-outans et du coca, ou tu peux l'utiliser pour le mettre au service de vendre des choses qui vont bien plus dans le sens de tes propres valeurs. Et j'ai adoré dans cet article justement l'atterrissage de cette réflexion que tu as eue. Et je vais te sortir la phrase du coup parce que je la trouve cool. Mettre le graphisme au service du bien commun. J'aimais bien cet atterrissage parce que ça montre que tu peux prendre ce socle de compétences que tu as. Effectivement, le diriger au travers de ton activité vers l'impact que tu as envie d'avoir grâce à ça, quoi.
Ouais, bah en fait si je le mets pas pour ça, je trouve que ça n'a aucun intérêt de faire ce que je fais et bah voilà, enfin du coup je me dis c'est forcément des clients comme ça qu'il faut que j'accompagne, ce soit enfin là par exemple, je travaille avec un artisan, enfin une artisan et une hypnothérapeute par exemple et franchement mais à chaque fois que j'ai des appels découvertes comme ça et qu'après j'enclenche les projets, mais je suis super contente de me lever le matin. J'ai beaucoup plus d'énergie et j'ai une énergie que j'ai jamais eue quand je travaillais en entreprise. Et là, en plus d'avoir le contact direct avec les clients, de ressentir aussi leur enthousiasme, ça me porte. Enfin, ça n'a pas de prix, quoi. C'est vraiment génial. Et ouais, du coup, je suis encore plus. Plus contente d'avoir attendu le bon moment pour me lancer et d'avoir pris tout ce temps de réflexion. Alors, ça m'a pris du temps, mais j'ai pas rien fait entre-temps, du coup. Mais c'est un temps qui a été nécessaire pour vraiment savoir là où je vais et là où j'ai envie d'aller, en fait, surtout. Et avec qui?
Ce que j'entends là-dedans, effectivement, quand tu dis que ça te porte et que ça te donne tellement d'énergie, c'est que ces clients-là, c'est ceux qui sont vraiment alignés avec les valeurs qui te guident et l'impact que tu as envie d'avoir. Et clairement, de mon expérience aussi et de ce que je vois chez les différents freelances qui écoutent ce podcast ou que j'accompagne dans mes différents projets, c'est quand tu trouves cet espace de qui j'ai vraiment envie de servir parce que ça fait sens pour moi et où sont les projets dont la forme nourrit mes valeurs. Clairement, tu as tellement plus d'énergie, de résilience, de créativité. J'imagine que c'est là où tu fais ton meilleur travail aussi. Et c'est assez dingue, je trouve, quand tu trouves cet espace. Et je pense qu'on devrait tous prendre le temps de le chercher et de voir comment est-ce qu'on peut incarner plus ça dans notre activité.
Ouais, c'est clair.
Est-ce que tu peux nous partager, du coup, un peu, tu vois, ces valeurs-là, tu les incarnes en travaillant avec ce type de client. Mais est-ce qu'il y a d'autres manières dans ton activité? D'autres manières dont tu arrives à incarner ces valeurs qui sont importantes pour toi et l'impact que tu vas avoir, notamment sur les sujets éco-responsables.
Dans mon métier.
Dans ton métier, dans ta manière de piloter ton activité, enfin, je sais pas si tu as poussé jusqu'à ce point. Moi, c'est une question que je me pose en ce moment de comment je peux ancrer encore plus, notamment sur les sujets éco-responsables, dans toute ma manière de piloter mon entreprise.
Non, là c'est vrai que j'en suis pas encore là. Là, je pose vraiment toutes les bases de ce nouveau lancement et du coup, je sais que ça va avancer petit à petit vers d'autres questions. Mais là, c'est vrai que déjà, je me dis focus sur qui est mon client idéal que j'ai envie de servir, là où j'ai mon domaine de compétences et qu'est-ce que je peux apporter. Mais après, je me pose des questions notamment par rapport à l'impact, parce que du coup, je suis graphiste spécialisée en identité visuelle et en support de communication, papier et digital, mais en tout cas, j'ai vraiment fait une spécialité print. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais le papier, ça pollue énormément, etc. Bah oui, mais en fait, Internet aussi. Et du coup, je suis plus à me poser ces questions-là et essayer d'aller chercher des infos sur quels sont vraiment, quel est vraiment l'impact entre le papier et le numérique. Parce qu'en fait, il n'y a pas l'un qui est mieux ou moins bien que l'autre. Je pense que les deux, ils doivent être complémentaires et en tout cas, réfléchir de la bonne manière de les utiliser pour l'un comme pour l'autre, quoi.
Ouais, moi clairement une prise de conscience que j'ai eue justement là-dessus. Je sais plus d'où ça vient, je pense que ça vient peut-être d'un podcast un peu sur le sujet. C'est un tout petit détail hein, que je lâche comme ça parce que comme ça on y fait tous plus attention. C'est l'impact écologique du stockage de nos mails.
Oui, grave.
Tous les emails qu'on accumule, qu'on archive, qu'on lit pas, qu'on prend pas le temps de supprimer, etc. Ça a un impact de malade parce que c'est des données qui sont stockées dans des centres de données qui ont besoin d'être refroidis tout le temps. Donc, ça utilise énormément de gestion énergétique et tout. Et c'est sûrement pas les endroits qui font le plus gaffe à leur gestion énergétique. Et du coup, moi, c'est un truc sur lequel j'essaie d'être vraiment vigilant maintenant. C'est à chaque fois que j'ouvre un mail, c'est est-ce que j'ai vraiment, vraiment besoin de le garder ou est-ce que je peux le supprimer? Et j'essaye de supprimer 80% de mes mails justement pour faire chuter les choses là-dessus. Mais c'est un truc On se doute pas en fait. Personne nous le dit et du coup t'as aucune idée que tu vois je pense à toutes ces personnes qui ont 3 000, 10 000, 15 000 mails non lus parce qu'ils regardent jamais vraiment leur boîte avec toutes les promotions qu'on envoie et qu'on reçoit.
L'angoisse en
Bah
plus.
ouais et en plus ça t'angoisse. Mais en plus de ça, le fait de pas gérer ça a un impact de ouf et ça je prends conscience et c'est pour ça moi je me pose de plus en plus de questions là-dessus. Comment dans tous les aspects, toutes les phases de mon activité, y compris ma boîte mail par exemple, je peux mieux incarner ce qui est important pour moi, sachant que là, on parle de cette valeur commune, mais il y a plein d'autres valeurs, il y a plein d'autres choses qui sont importantes pour chacun d'entre nous, et que ce soit l'écologie ou autre, comment on incarne mieux ça dans son activité, je trouve que c'est une vraie réflexion, quoi. Je voulais venir aussi sur un peu la gestion que tu peux avoir, parce que tu vois, ces valeurs dont on parle, on les retrouve aussi dans ta première boîte, dans ta ligne de vêtements Can I Wear. J'imagine que c'est même la première expression que tu as imaginée et trouvée, de se dire, l'industrie textile, c'est une des plus polluantes au monde. Du coup, je vais venir faire un projet là-dedans avec la manière dont tu l'as fait. Je suis curieux de, aujourd'hui, comment tu fais pour continuer de nourrir ces deux projets? Comment tu t'organises? Est-ce qu'il y en a un qui prend le pas sur l'autre? Enfin, voilà, c'est quoi un peu les coulisses de ça? Du coup, t'as ta marque de vêtements, tu lances ton activité freelance. Comment les deux jouent ensemble?
À la base, pour 2020, je savais déjà que je voulais me relancer en freelance et du coup, je m'étais un peu posée au début de janvier 2020 en mode OK, qu'est-ce que je fais pour Canaiwear et qu'est-ce que je fais pour le freelance pour réussir à faire un peu les deux. Et puis, alors finalement, avec tout ce qui s'est passé, les confinements, etc., ça s'est pas du tout passé comme prévu. Et
surprise.
En fait, j'ai vraiment... Ouais, surprise. adaptabilité, du coup. Et du coup, c'est vrai que Canaiwear, où j'avais prévu quand même de pas mal développer sur d'autres aspects, j'ai vraiment mis entre parenthèses pour mettre toute mon énergie dans le lancement de mon activité en freelance. Qui m'a du coup aidé, parce que je pense qu'aujourd'hui, j'en serais pas encore là si j'y avais pas passé autant de temps. Et du coup, là, c'est vrai que pour le moment, je fais surtout avec Canaiwear des marchés de créateurs, ce genre de choses. Là, il n'y a aucun marché, il n'y a rien eu à Noël, etc. Donc, du coup, comme tout est en stand-by, je prends les choses comme elles viennent et je me dis, c'est pas grave et mets ton énergie sur le lancement de ta deuxième activité. Et Canaiwear, ça reviendra petit à petit. Mais du coup, c'est vrai que je sens que j'ai pas l'énergie à mettre à 100% dans les deux. Et du coup, là, je privilégie le graphisme en freelance pour le moment. Ça ne veut pas dire que j'arrête Canaiwear, parce que c'est quand même un projet qui m'a demandé du temps, d'énergie. Et puis, c'est un projet de cœur que j'ai lancé. Donc, je ne veux pas l'arrêter. Mais pour le moment, je n'arrive pas vraiment à jongler entre les deux comme je le voudrais, en tout cas. Mais petit à petit, je pense que je me dis que quand le freelance, ça va un peu rouler, que j'aurai mis les premières, vraiment toutes les premières briques en place, parce que c'est encore neuf, j'arriverai un peu plus à dégager du temps quand même pour Canaiwear.
Et je suis curieux aussi de... Ta marque de vêtements, tu l'as fait pendant combien d'années? C'était 2 ans, c'est ça? Avant de te mettre sur le freelancing?
En gros, c'est ça, 2 ans. J'avais travaillé le projet pendant une bonne année avant de lancer officiellement. Ouais.
Avant le lancement officiel.
Tout ça. C'est une jungle de labels quand tu veux te lancer dans les trucs un peu bio, etc. Donc, il fallait déjà comprendre un petit peu tout ce nouveau langage.
Parce que du coup, je suis curieux, entre cette expérience-là de l'année de préparation et les 2 ans de lancement et tout, qu'est-ce que tu as appris sur cette forme-là entrepreneuriale et cette forme de business que tu as pu réutiliser ensuite dans le freelancing? Je suis hyper curieux de ce pont dans ce sens-là, tu vois.
Déjà, j'ai appris qu'il fallait que je lance les choses beaucoup plus vite parce que, Canaiwear, j'ai vraiment pris le temps, mais avec du recul, je me dis que je me sentais pas encore les épaules pour vraiment créer tout ça. Même si j'en avais très envie, ça me faisait peur et je savais pas vraiment par où commencer tout simplement comment avancer. Et du coup, pour le freelance, j'ai essayé d'aller plus vite, ne serait-ce que sur le site internet, etc. J'ai encore pris du temps parce que je suis très perfectionniste, même si j'essaie de me soigner là-dessus, parce que le perfectionnisme à outrance, c'est pas le mieux.
Mais, c'est assez limite.
Tu perds du temps, en fait, tout simplement, parce que tu testes pas, quoi. Donc là, j'ai vraiment testé beaucoup plus vite que pour Canaiwear. Et il n'y a pas vraiment d'autres liens sur les projets, parce que pour le coup, Canaiwear, c'est vraiment, je travaille avec des particuliers, avec des imprimeurs, etc. Enfin, la chaîne, c'est pas du tout la même, c'est pas le même fonctionnement que là, le freelance. Et du coup, j'ai vraiment tout eu à créer au niveau des process, etc. Et là, le suivi client, la gestion client, c'est quelque chose que... C'est pas du tout les mêmes rapports, quoi.
Ouais.
Donc surtout cette notion de teste plus vite et lance-toi et arrête de vouloir que tout soit parfait, parce que ça n'arrive jamais.
Ouais. Et en même temps, tu vois, tu parles de ce sujet de la relation client. Je me dis, la rigueur nécessaire pour construire ce que tu dois construire sur une marque de fringues, comme tu parlais, aller chercher les labels, les fournisseurs, le cheminement de, OK, le client, il achète, puis machin, puis X, etc. Surtout que c'est un espace en ligne, donc un e-shop entre l'achat, la commande, le machin, je sais pas si tu gères du stock et tout. Enfin, voilà. La rigueur de tout ce système complexe, je me dis, ça te donne une rigueur dans la gestion client en freelance que t'as peut-être pas quand tu te lances au début. Et je me demande, du coup, si est-ce que tu sens que ça t'a facilité un peu la compréhension de c'est quoi une relation client, comment est-ce que je la compose pour que ça se passe bien avec mes clients en free, etc.
Enfin, j'ai pas l'impression comme ça. Après, peut-être qu'avec un peu plus de recul, je dirais ben oui, bien sûr. Mais je pense que ça m'a surtout amené à gagner en confiance et du coup à réussir à avancer beaucoup plus vite en fait dans toutes les phases de ce que je fais maintenant. Et en fait, c'est plus un état d'esprit, on va dire, que bah forcément quand je me suis lancée en 2000, enfin du coup j'ai quitté ma dernière entreprise, enfin le salariat en 2016, enfin août 2016. Donc mon état d'esprit n'est pas du tout le même. J'ai énormément appris sur moi et en fait c'est plus ces transformations intérieures, je pense, qui aujourd'hui me servent pour la transition d'activité.
Tu peux nous parler du coup un peu de, à ton sens, qu'est-ce que c'est quoi justement ce cheminement de ces transformations intérieures? T'as parlé un peu de avoir plus confiance dans ta capacité à réaliser les choses. Est-ce qu'il y a d'autres nuances qui se sont jouées qui te servent aujourd'hui?
Bah déjà voir aussi que les créations que je produis ça plaît forcément ça donne un peu en confiance sur les capacités et même en effet enfin le contact client sur les marchés etc. ça m'aide forcément quand même aujourd'hui pour essayer d'être plus à l'aise, même si ça encore, je le travaille, parce que là, ça a été mon gros changement de 2020, d'essayer de m'ouvrir un peu plus, parce que j'osais pas parler de moi, j'osais pas parler de ce que je faisais, etc. Mais mine de rien, je pense que Can I Wear, ça m'a tout de même appris à parler un minimum, parce que fallait quand même sur les marchés que j'explique ce que je fais, pourquoi, qui je suis. Donc oui, tout ça, forcément, ça m'a aidé. Et après, au niveau de changement, ouais, là, comme ça, je vois pas trop d'autres choses.
Celui-là, en tout cas, il est déjà dingue, je trouve, hein, parce que effectivement, genre, je me visualise, je sais pas pourquoi, je étant maintenant à la campagne, je vais faire la plupart de mes courses au marché. Et c'est un truc, à chaque fois que je vais sur le marché depuis un moment, je me visualise être à la place de la personne et je me demande, est-ce que j'arriverai à être c'est le mec du marché qui est en mode ah venez, j'ai des trucs sur ça machin, des fraises d'ici bla bla. Et je me dis, en vrai, être dans cet environnement-là, est-ce que t'as dû vivre du coup d'avoir plein de gens qui passent, leur expliquer à chaque fois cette répétition de l'entraînement de présenter ce que tu fais, effectivement parler de qui tu es, etc. Je me dis, c'est un entraînement génial pour ensuite le faire à plus petite mesure en direct avec un client quand tu es en freelance, parce qu'on fait moins régulièrement que quand tu es, j'imagine, dans une posture de marché, parce que, bah, comme tu disais, c'est des prestations plus approfondies, plus poussées, plus chères, alors que quand tu vends des vêtements, bah, il y a un enjeu de nombre de personnes aussi. Du coup, j'imagine que ça aussi, ça a dû jouer sur peut-être ton niveau de confiance en toi, en ton travail et tout.
Ça m'a aidé, mais j'avais encore quand même des peurs comme ça de parler de moi, enfin
Bien sûr.
pas de pas être à l'aise, on va dire. Mais enfin, j'étais pas du tout sur des marchés où justement on alpaguait les gens, etc. Donc je mettais aussi les gens pour mourir. Et si je chantais qu'il y avait un intérêt, là je racontais et du coup j'ai eu des super échanges avec certains passants comme ça. Donc ça c'était vraiment super enrichissant. Mais je suis pas sûre que, enfin, ça m'a forcément aidé, mais je suis pas sûre que ça a été l'élément déclencheur qui aujourd'hui m'aide à avoir vraiment confiance et me sentir légitime dans mon métier en tant que graphiste freelance, quoi. Et je pense que là, c'est vraiment plus Enfin, cette année, du coup, là, j'ai fait notamment une formation. Et puis, bah, du coup, bonjour à Insight Freelancing, ta communauté que j'ai rejoint en novembre. Et en fait, c'est plus d'avoir ressenti qu'il fallait vraiment que je fasse un changement d'état d'esprit et que je m'ouvre. Alors, je ne sais pas si c'est aussi le confinement, quand on était tous chez soi, est-ce que j'ai ressenti ce besoin encore plus d'aller vers les autres. Mais en tout cas, là, ça a été ce que j'ai fait ces derniers mois. Et clairement, je sens une énorme, énorme différence. Et d'ailleurs, je serais pas là aujourd'hui, j'aurais pas participé au concours quelques mois auparavant. Enfin, franchement, jamais j'aurais osé. Et du coup, je pense que Canaïwear m'a aidée, mais que malgré tout, c'est plus de m'être entourée en fait des bonnes personnes et qui m'aident aujourd'hui à bah, oser en fait, tout simplement. T'as peur, bah c'est pas grave, t'y vas. Qui va et la peur, ça, c'est pas ça qui va te bouffer, hein, justement, c'est ça qui va te permettre aussi de, si tu la dépasses, aller plus loin. Donc,
Ouais, c'est clair. Bon, je suis un peu triste. J'avais l'impression de tomber sur le truc en mode allez tous avoir une expérience au marché, vous deviendrez tous des experts de la vente.
non,
C'est dommage, on n'a toujours pas trouvé la
je
solution miracle.
ne
De quoi?
suis pas experte de la vente.
Bon, voilà. Je pensais que
Apprendre.
c'était la solution miracle qu'on attend tous, mais elle est toujours pas là, c'est dommage.
Bon, désolé. Mais ça peut aider, hein, ça peut aider.
Écoutez,
En tout
écoutez.
cas, ça fait une belle
En tout cas.
expérience. Je pensais pas faire ça un jour dans ma vie. Et c'est vrai que la première fois que tu arrives sur le marché, tu fais waouh! Et puis même, enfin, du coup, c'était la première fois que je vendais quelque chose, que je gagnais de l'argent par rapport à ce que moi je fais. Et c'est vrai que le premier client qui t'achète quelque chose. C'est des t-shirts, hein, c'est pas des produits à 1000 euros, c'était 35 euros, mais là tu fais, oh là là, mais ça c'est grâce à tous les efforts que j'ai fournis avant, et c'est vrai que c'est une fierté incroyable, quoi.
Ouais, c'est clair. C'est, je pense, l'effet qu'on peut avoir avec notre première facture en freelance aussi,
Ouais,
c'est
c'est ça.
le sentiment, je peux générer de l'argent dont j'ai besoin pour mes projets, pour vivre seul, sans l'autorisation de personne, sans que quelqu'un au-dessus de moi me dise quoi faire. Je trouve ça incroyable.
Ouais. Bah, j'ai ressenti ça aussi en freelance là quand je me suis lancée. Hein.
Trop cool. Il y a un autre truc dont je voulais parler par rapport à cette fois-ci plus ton activité indépendante. Il y a une offre sur ton site web qui est une offre d'abonnement mensuel à tes services. D'ailleurs, je sais pas encore, je sais pas, tu me raconteras si tu as des clients qui sont souscripteurs à cette offre ou pas, mais je suis hyper curieux de ta réflexion de ça, comment ça fonctionne, pourquoi tu as mis en place ça, parce que la récurrence, c'est un truc dont je parle régulièrement. Et je trouve que c'est quelque chose avec lequel notamment les graphistes ont du mal parce que ben non, moi je fais une identité visuelle, c'est un début, une fin. Comment je fais pour avoir un truc récurrent? Donc je suis hyper curieux que tu nous racontes un peu ça.
Ouais, bah alors en fait, je suis arrivée à la création de cette offre parce que tout simplement, un client avec qui j'ai commencé m'a questionné là-dessus et avait ce besoin-là. Et du coup, je me suis dit, OK, comment je peux mettre ça en place pour satisfaire à ses besoins? Et du coup, bah, l'idée, en fait, c'est d'essayer d'étaler des budgets sur plusieurs mois pour réussir à accompagner les clients sur le long terme. Et alors, j'ai pas encore de clients avec cette offre, parce que du coup, le client qui m'avait soumis cette idée et pour lequel j'ai un peu créé tout ça, mais plusieurs mois après, du coup, c'était vraiment avant de me lancer, en fait, j'ai eu un premier client. Un peu, enfin, officiel, mais voilà. Et du coup, après, finalement, on n'a pas poursuivi avec cette offre d'abonnement. Mais par contre, quand il m'avait soumis l'idée, je me suis dit, bah oui, c'est vrai que c'est intéressant, en effet, de pouvoir accompagner sur le long terme. Et par exemple, ça peut être pour les réseaux sociaux, tu vois, il y a des besoins qui sont super réguliers. Et du coup, bah, ça permet d'avoir toujours le même prestataire, de pas galérer à aller chercher à droite à gauche sur des plateformes de graphistes. Ah mince, le graphiste avec qui j'ai l'habitude de travailler, il n'est pas dispo. Bah non, là, avec l'abonnement, t'es prioritaire. Donc du coup, voilà, ça permet de créer un vrai lien, je trouve, sur le long terme aussi avec des clients. Et c'est vrai que pour les identités visuelles, bah, c'est plus en one shot. Mais par contre, du coup, comme je fais aussi toute la partie print et digital, enfin support de communication papier et web, bah, ça permet en fait de pouvoir travailler sur le long terme avec n'importe quel client qui en a besoin. Donc ça c'est
Clairement.
intéressant.
Clairement.
Mais il faut que j'arrive à promouvoir un peu plus cette offre. Et pour le moment, c'est vrai que je ne me suis pas vraiment penchée dessus.
Ben, déjà, ça a le mérite d'exister. Et ce que je trouve bien avec. Pourquoi est-ce que je recommande la récurrence en général ou que j'en parle aux personnes qui sont en début d'activité? C'est que quand tu arrives à avoir des offres et ce revenu récurrent, c'est beaucoup plus facile pour piloter et prévoir les choses. Si tu sais que, par exemple, je sais plus exactement ce que c'est l'état de tes offres, mais si tu sais que tu peux vendre une prestation à, disons, 500, 600 euros par mois pour quelques heures par mois et que la personne s'engage avec toi sur 6 mois, bah, tu sais, OK, il m'en faut, disons, 4, 5, ça me fait de mes 2000 euros, 2500 euros de chiffre d'affaires et c'est ma base et je construis sur cette base et c'est prévisible et je sais que dans 6 mois, j'ai ça. Plutôt que d'avoir l'effet complètement dents de scie où on va faire peut-être, on va prendre trois prospects qui vont signer, on va arrêter de chercher et après on va avoir un creux, etc., etc. Je trouve ça nous permet d'être beaucoup plus sur un endroit stable et de prendre les meilleures décisions pour son activité, quoi.
Ouais, d'être plus serein, bah c'est sûr, ouais. Mais c'est vrai que j'aimerais la mettre un peu plus en avant, mais que là, c'est pas ce qui m'est venu pour le moment. Et je me dis, bah, si les clients pour le moment ils ont pas besoin de ça, c'est pas grave. Et en fait, enfin, ça, du coup, je l'ai créé vraiment au début parce que comme ça avait été un besoin client, je me suis dit, bah, faut que je le mette en place et ça peut être utile à d'autres. Mais c'est vrai que là, j'ai déjà d'autres idées, d'offres, etc., qui arrivent. Et du coup, pour le moment, je suis plus dans la réflexion et aussi aller chercher les infos de mon client idéal avec. Enfin là, je suis en train de finir un questionnaire justement pour aller interroger un petit peu les besoins réels et voir en effet si cette offre elle a vraiment lieu d'être ou pas, quoi.
Ouais, parce qu'effectivement, ce que ça demande, c'est hyper bien comprendre et connaître les clients, leurs enjeux, leurs besoins, leurs freins, etc., pour se dire comment je fais pour que ce soit pertinent par rapport à eux et que ça vienne vraiment répondre à un besoin. Plutôt que effectivement genre le jeter un peu en l'air en mode bon mais tu peux travailler avec moi tous les mois, on verra ce qu'on fait.
C'est ça. Et là, pour le moment, ça a été un peu jeté comme ça. Mais il faut que je travaille encore dessus.
Mais en tout cas, invitation à toutes les personnes qui nous écoutent, réfléchissez à où est-ce que vos clients cibles ont des besoins récurrents et comment vous pouvez y répondre avec une offre récurrente, parce que clairement c'est une base hyper solide et soutenante pour toute activité, pour la base de votre activité, quoi. On va du coup arriver sur les questions rituelles de fin d'épisode, Lola.
Yes.
Et la première, et je suis très curieux de ta réponse d'ailleurs sur ça, la première c'est, dans tes dernières années en tant qu'indépendante, je te laisse voir si tu intègres Canaille Wear ou pas à l'intérieur, c'est quoi le plus gros challenge ou la plus grosse galère que tu as eue et comment tu as fait pour dépasser ça?
Ouais, c'est pas facile de garder un. J'ai pas l'impression d'avoir eu genre de méga grosse galère ou autre, déjà, donc ça, je suis plutôt reconnaissante de ça. Mais par contre, le plus challengeant, mais du coup, j'en ai déjà parlé, en fait, c'est vraiment d'oser parler de moi, de ce que je fais, de comprendre que je suis légitime et que j'ai de la valeur à apporter à des clients. Ça, j'ai mis longtemps à m'autoriser, à me dire, mais si, enfin, t'as des compétences et elles sont réelles, donc sers-toi-en et parle-en parce que bah, sinon forcément personne ne viendra à toi vu que personne ne saura que t'existes. Et du coup, bah, pour vraiment passer là-dessus, bah, encore une fois, c'est vraiment un travail sur la durée, je pense, d'apprentissage de moi, d'essayer de comprendre là où j'ai des blocages, d'essayer aussi de quand j'ai des blocages, de les comprendre, de me poser des questions, ok, mais pourquoi je bloque sur tel point et comment je fais pour avancer. Et clairement de rejoindre bah là, la communauté du coup d'Inside Freelancing, d'avoir fait la formation que j'ai suivie cet été, ça m'a beaucoup aidé d'être en contact avec beaucoup plus d'entrepreneurs que ce que j'avais été avant, etc. Et c'est tout ça en fait qui m'a permis de me dire, enfin pas de me dire, mais en fait de tout simplement analyser que ça y est, j'arrive à parler de moi d'une manière un peu plus fluide, on va dire, même si encore une fois il y a du chemin à faire.
Mais c'est vrai que, un peu comme dans le sens de ce que tu disais tout à l'heure, ces premières expériences où on valide et on voit j'ai pris la parole sur ce que je fais et ça passe et j'y arrive. Je trouve que ça nous aide à continuer de réancrer la machine, tu vois. Tant qu'on reste dans notre tête à projeter le truc et qu'on n'a pas les expériences qui valident oui, on est capable, c'est encore plus difficile. Et là, c'est effectivement trop cool ce que les gens peuvent vivre dans la communauté, c'est que c'est un endroit un peu plus safe où on peut commencer à faire ce travail-là avant de le faire dans la sauvagerie du monde face aux vrais clients, quoi.
Ouais, et puis, enfin, c'est vrai que je me souviens le premier événement là d'intégration que tu avais fait, où du coup on a été propulsé en petite salle, mais j'ai ouvert les yeux, genre, mais qu'est-ce que je fais là? Et mais qu'est-ce que je vais raconter? Enfin, en plus, pas des, enfin, sur les domaines de vie où tu parles pas juste de bah bonjour, je suis Lola, je fais ça, etc. Et c'était super challengeant. Et après, tu dis, bah, j'ai réussi à le faire. Donc, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas sur d'autres sujets. Et en fait, oui, c'est juste en découvrant que tu arrives à faire les choses, bah, forcément, après, tu te dis, je peux surmonter d'autres difficultés, même si aujourd'hui, ça paraît insurmontable, quoi.
Trop cool. Merci et bravo. Et... Ouais, non, je vais pas te dire désolé de t'être mis dans cet environnement-là. Mais bravo de l'avoir dépassé, en tout cas. Félicitations. La seconde question rituelle, c'est si tu étais face à Lola, son tout premier jour d'indépendance, c'est quoi le conseil majeur que tu lui donnes avec tout ce que tu as vécu depuis?
Oui. Accepte que tout ne soit pas aussi parfait que tu en as envie, et enfin cette histoire du coup de chercher la perfection, et qui en tout cas pour moi je pense c'est chercher la perfection, mais surtout du coup ne pas admettre que j'avais peur de certaines choses, et du coup plus d'être dans moi j'aime quand c'est vraiment bien fait de A à Z, donc je fais bien. Mais en fait, derrière, il y avait des choses à aller travailler que j'ai peut-être pas travaillé assez vite. Et du coup, c'est teste les choses, avance et puis tu verras bien ce que ça donne. Et surtout, on évolue super vite, je trouve. Enfin, ça dépend de quel domaine. Enfin, il y a des choses en tout cas où j'y ai passé du temps, alors qu'en fait, une fois que c'est fini, j'ai tellement déjà évolué que j'ai déjà envie de faire quelque chose de nouveau. Donc, c'est bête, j'ai perdu du temps, quoi. Et du coup, rien que ça, rien que pour ça, il faut aller plus vite sur les choses, je pense.
Et un truc que j'entends aussi dans ce que tu as dit, que je trouve hyper intéressant, c'est derrière cette volonté de perfection, c'est quoi les peurs qui sont derrière, qui nourrissent ça. Et je trouve que c'est un exercice hyper intéressant de se demander... Quand j'ai un comportement, est-ce qu'il est en train de naître de la peur de quelque chose ou est-ce qu'il est en train de naître d'une réelle envie, et aller voir qu'est-ce qui est plus de l'ordre de la peur ou pas, et de se dire, enfin moi par exemple, un travail que je fais, c'est j'ai pas envie d'agir à partir de la peur et que ce soit ça qui donne naissance à mon comportement. J'ai envie que mon comportement naisse dans de l'envie, dans de l'amour, dans de l'ouverture.
Oui.
Et je trouve que du coup, ce que t'as dit, c'est hyper intéressant sur ton côté perfectionniste. Est-ce qu'il est né de la peur de quelque chose, de la peur qu'on juge que t'es pas suffisante ou quelque chose comme ça, par exemple? Je trouve que c'est hyper intéressant, cet exemple.
Mais c'est vrai que c'est quelque chose dont j'ai pris conscience après, parce qu'au début, tu penses juste que t'es perfectionniste, et puis enfin voilà, c'est un trait de personnalité, de caractère, et puis tu fais avec, quoi. Et sur plein d'aspects, ça m'a beaucoup apporté. Ça apporte aussi de la rigueur qui est nécessaire, je pense. Mais c'est vrai que là, dernièrement, comme je suis de plus en plus à aller approfondir justement comme ça sur des blocages qu'on peut avoir ou autres, enfin que je peux avoir en tout cas, et du coup, c'est là où je me suis dit, mais est-ce que quand tu cherches à toujours mieux faire ou en tout cas pousser plus loin, est-ce que tu perds pas juste du temps parce qu'en fait, t'as peur de te montrer, de produire ça, et ouais, mais c'est quelque chose de nouveau. Ouais. C'est vrai que j'en avais pas conscience avant, quoi.
Trop intéressant. Merci pour ce partage. Trop cool. J'espère que ça vous fait réfléchir, ceux qui écoutent. Et une autre question pour les faire réfléchir. Lola, si tu as une question à poser aux gens qui nous écoutent, pour qu'ils prennent un temps pour faire un peu d'introspection sur eux et sur leur activité, quelle question tu as envie de leur poser?
Ça va aller dans la lignée de ce qu'on vient de dire. C'est quoi qui te fait le plus peur aujourd'hui dans ton activité? Et du coup, pour essayer de dépasser cette peur et que tu sois fière d'avoir réussi à dépasser ça, quel est le premier petit pas que tu peux faire pour aller de l'avant, quoi?
Trop chouette. Trop chouette. Je vais la répéter. Qu'est-ce qui te fait le plus peur dans ton activité? Et c'est quoi le premier plus petit pas possible que tu peux faire pour avancer dans le bon sens par rapport à ça? Trop chouette. Un grand merci Lola pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Si les gens veulent venir discuter avec toi, suivre ton travail, acheter tes merveilleux t-shirts et autres de ta marque, où est-ce que je les envoie?
Alors sur Instagram principalement pour le freelance, Lola Studio graphiste, et pour la ligne de vêtements c'est canaiwear.com pour le site. Et puis il y a aussi mon site de freelance lolastudio.fr.
Ok, je mettrai tous les
J'essaie
liens
d'être un peu
dans.
sur LinkedIn mais j'ai du mal à m'y mettre.
T'inquiète, c'est déjà très bien. Je mettrai tous les
Mais on
liens
pourrait
dans
voir.
la description sur la page. Donc les
Ouais, ça
gens pourront
marche.
venir te retrouver. Merci beaucoup, Lola. Est-ce que tu as un petit mot de la
Merci
fin?
à toi. Bah merci, en fait, tout simplement. Je suis contente d'avoir fait ça avec toi et pour
Très
cet
heureux aussi
échange.
de t'avoir accueilli sur le podcast. Merci encore et super journée à vous tous qui nous écoutez. Bye.
Bonne journée.
Pour clôturer cette très chouette discussion, j'ai envie qu'on s'arrête ensemble sur un point précis de cet épisode. Tu l'as entendu, à un moment de son parcours, Lola ne voyait presque plus l'utilité du métier qu'elle a appris à l'école et pendant ses expériences en alternance. L'usage classique de ses compétences de graphisme ne l'inspirait pas. Et elle en est même venue à ne plus vouloir exercer ce métier. Mais une fois qu'elle s'est rendue compte qu'elle pouvait donner un autre sens à ce métier, tout d'un coup, comme tu le vois, le dynamisme et l'envie d'avancer reviennent à la charge. Ce qui me fait noter une chose que je juge très importante pour nos activités et tous nos autres projets d'ailleurs. Quand on a une problématique, on a tendance à foncer directement vers les solutions et le comment. La partie concrète, quel pied on met, à quel endroit, dans quel sens. Mais comme l'illustre une phrase de Jim Rohn, le mentor de Tony Robbins, une phrase que j'adore, il dit « Les raisons viennent en premier, les réponses en second. » Si on n'a pas de raison suffisamment forte, un « pourquoi est-ce que je fais ça » suffisamment fort, alors on ne trouvera très certainement pas les meilleures réponses et pas la meilleure stratégie pour répondre à la problématique en question. Je te laisse méditer là-dessus et on se retrouve très vite sur Young, Wild and Freelance. Bye bye.